RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. On commence notre émission par le journal, puis la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Maintenant, écoutons le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le gouvernement indonésien construira 10 000 centres de formation communautaire l'année prochaine ». Les peintres indonésiens et malaisiens ont organisé une exposition conjointe à Borobudur. L'Indonésie et Timor-Leste se réunissent pour discuter de la gestion de l'eau. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a déclaré que le gouvernement a l'intention de construire un millier de centres de formation communautaire d'ici 2019. Cela fait partie du plan du gouvernement de continuer le développement dans le pays après être concentré sur le développement des infrastructures. Dans son discours, lors du 6e congrès national de l'Association des anciens du mouvement des étudiants indonésiens musulmans, vendredi à Jakarta, le président Joko Widodo a déclaré que la construction d'un millier de centres de formation communautaire faisait partie du programme de développement des ressources humaines étant fait par le gouvernement dans les internats en Indonésie. Cette année, le gouvernement a commencé la construction de 50 centres de formation communautaire. Ce développement sera continué en 2019 à travers le ministère de la main-d'œuvre.
Tahun ini telah kita coba dan Pak Sekjen Pak Hanif telah mencoba tahun ini 50.
Cette année, nous avons essayé et Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur Hanif, a essayé cette année 50 centres de formation communautaire à l'internat. L'année prochaine, j'ai ordonné de construire au moins 1000. Nous allons aider dans les internats, le bâtiment, puis l'équipement. Si la construction d'un millier de centres de formation communautaire est terminée, le nombre sera ajouté. Parce que nous avons près de 29 000 internats qui ont besoin de formation professionnelle pour les élèves en internat. Je pense que c'est une chose très réelle pour faire face au grand changement de l'économie mondiale. L'investissement dans les ressources humaines est la clé de la concurrence pour notre concurrence avec d'autres pays.
Investasi di bidang sumber daya manusia menjadi kunci bagi kompetisi, bagi persaingan kita dengan negara-negara lain.
En plus de la construction de centres de formation communautaire, le président Joko Widodo a déclaré qu'il continuerait également le développement de la banque micro-wakaf dans les internats en Indonésie. Selon lui, l'existence de 40 banques de micro-wakaf en 2018 est destinée à encourager l'économie de la population. Le gouvernement fera une évaluation de l'existence de la banque de micro-wakof et sera développé si l'existence de la banque de micro-wakof peut encourager l'économie de la communauté. Cinq peintres indonésiens et malaisiens ont organisé une exposition conjointe intitulée Transmogrification à l'Imanjawi Art House dans la région des temples de Borobudur, Magelang, Java Central, du 21 juillet au 21 août 2018. Le gestionnaire de l'Imanjawi Art House Borobudur, qui est aussi le coordinateur de la communauté d'artistes de Borobudur d'Indonésie, Umar Husaini, à Borobudur, a déclaré vendredi que grâce à cette exposition, les artistes asiatiques démontrent l'existence de la coopération pour être connus du grand public international. Les artistes de l'exposition sont Imam Santoso, Indra Dodi, Marsoyo et Haris Abadi d'Indonésie et Shahrul Hisham de Malaisie tiendront environ 25 peintures généralement contemporaines dans la galerie à environ 600 mètres à l'est du temple de Borobudur. Il a dit que cette exposition conjointe a pour but de renforcer l'amitié entre deux pays voisins proches, l'Indonésie et la Malaisie. Le gouvernement indonésien et du Timor-Leste se réunissent à Jakarta pendant trois jours pour lancer un nouveau projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial. La réunion qui s'est tenue récemment s'est penchée sur le thème « Permettre la coopération transfrontalière pour la gestion des écosystèmes marins d'Indonésie » en collaboration avec l'Agence pour l'alimentation et l'agriculture. Comme l'a indiqué Dantara vendredi, les deux gouvernements collaborent pour assurer la conservation et la gestion des ressources et des écosystèmes marins et des halieutiques de manière durable. La réunion vise également à assurer la productivité de l'eau sur la sécurité alimentaire et à en faire un meilleur moyen de subsistance pour les communautés locales que leurs activités économiques dépendent du secteur de la pêche dans les eaux des deux pays. Les représentants de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture Indonésie et au Timor-Leste, Stephen Redgard a déclaré que cette réunion régionale et ce programme sont devenus une opportunité importante pour les parties prenantes pour apprendre davantage sur les activités soutenues par le projet, le partage d'expériences, les connaissances et les meilleures pratiques et apprentissages.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018 2018 à Voi News, Wang Ide. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous. On se rencontre avec moi, Tiwi, dans la mise au point de la semaine. Le titre d'aujourd'hui est « Le monde apprécie le progrès de la gestion forestière en Indonésie ». L'international mondial apprécie le pas de l'Indonésie sur l'amélioration de la gestion forestière actuelle. L'appréciation a été donnée par le directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Daniel Gustafsson, à la 24e session du comité forestier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, en Italie, mardi 17 juillet. Gustafsson a apprécié les efforts profonds du gouvernement indonésien pour gérer les forêts durables. En outre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture renforcera la coopération avec l'Indonésie en mettant en place un centre international de recherche sur la tourbe et une forestière sociale. L'ambassadeur de Norvège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Inge Nordang, a également exprimé son appréciation à la même occasion. Il a expliqué que depuis 2010, la Norvège travaille avec l'Indonésie sur la réduction des émissions dans le secteur forestier par une lettre d'intention. Dans cet accord, la Norvège a progressivement distribué 1 milliard de dollars à l'Indonésie, conformément au développement de préparatifs et de réalisation. Il a déclaré que la Norvège était fière de s'associer à l'Indonésie dans le domaine de la foresterie. Il a également salué l'objectif de l'Indonésie de 12,7 millions d'hectares de forêt pour la foresterie sociale, qui a aussi donné la reconnaissance coutumière de la forêt aux peuples indigènes et tribaux depuis fin 2016. Il a également apprécié le leadership du président Joko Widodo et du ministre de l'Environnement et des Forêts, Situ Nurbaya, qui ont permis d'arriver à ce progrès. L'ambassadeur de l'Union européenne de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Jan Tombinski, a également salué le sérieux de l'Indonésie sur la garantie de la légalité de ses produits du bois. Tombinski a déclaré que l'Indonésie est le premier pays à suivre la licence d'application des lois forestières, gouvernance et commerce. Selon lui, en seulement 18 mois, 40 000 expéditions de produits du bois en provenance d'Indonésie valant des milliards de dollars. Pour Tombinski, c'est une valeur très élevée qui aide le gouvernement indonésien à augmenter ses revenus et à lutter contre l'exploitation illégale. À la 24e session, le comité forestier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le ministre de l'Environnement et des Forêts a présenté les réalisations d'un nouveau paradigme de gestion forestière au cours des 3 dernières années, qui sont écrits dans le livre State of Indonesia Forest 2018. Il a décrit les réussites telles que la gestion des feux de forêt, la déforestation et la dégradation des forêts, la foresterie sociale et le rôle des entreprises forestières. Cette exposition devrait améliorer l'image de l'Indonésie et réduire la pression internationale qui considère souvent mauvaise gestion forestière en Indonésie. Voilà la mise au point de la semaine.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie. Le 22 juillet 1916, le bombardement du jour de la préparation, San Francisco. Le bombardement du jour de la préparation est un attentat à la bombe qui a eu lieu à San Francisco, en Californie, le 22 juillet 1916, quand la ville organisait un défilé pour honorer le jour de la préparation en prévision de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Pendant le défilé, une bombe de valise a explosé. Ce bombardement a causé 10 personnes mortes et 40 blessés. C'est la pire attaque de l'histoire de San Francisco. Deux dirigeants syndicaux, Thomas Mooney et Wiring Billing, ont été condamnés à mort et puis ont changé à la réclusion à perpétuité. Les enquêteurs ont découvert plus tard que le tribunal avait été entaché par des faux témoignages. Puis, ces deux hommes ont été libérés en 1939. L'identité des bombardiers n'a jamais été déterminée. Le 22 juillet 1946, le bombardement de l'hôtel du roi Daoud. Le bombardement de l'hôtel du roi Daoud est une attaque terroriste qui a eu lieu le lundi 22 juillet 1946 par l'organisation clandestine sioniste Irgun au siège administratif britannique pour la Palestine, situé au sud de l'hôtel du roi Daoud à Jérusalem. 91 personnes de diverses nationalités ont été tuées et 46 blessées. Cet hôtel est le siège de l'autorité palestinienne du mandat britannique, principalement le secrétariat de l'autorité palestinienne et le quartier général des forces armées britanniques en Palestine et en Transjordanie. L'attaque a été considérée comme une contre-attaque à l'opération d'Agatha, une série d'attaques à toutes les couches, y compris une des agences juives menées par les autorités britanniques. Il est l'événement le plus meurtrier contre les Britanniques à l'époque du mandat, de 1920 à 1948. Le 22 juillet 2011, l'attaque norvégienne. L'attaque norvégienne de 2011 est deux attaques terroristes par André Behring Breivik contre le gouvernement, les civils et le camp d'été des travailleurs de la jeunesse. L'attaque a tué 77 personnes. La première attaque a été une explosion d'une voiture piégée à Oslo, à Regjeringskvartalet, une partie du gouvernement exécutif. L'explosion a tué 8 personnes et blessé au moins 209 personnes. Environ 2 heures plus tard, la deuxième attaque s'est produite dans un camp d'été sur l'île d'Utoya à Tirif Jordan, Buskerud. Le camp est organisé par l'AUF, la division de la jeunesse du Parti travailliste norvégien au pouvoir. Il a tiré sur les participants, tuant 68 personnes et blessant au moins 110 personnes. La police norvégienne a arrêté Anders Behring Breivik, un extrémiste de droite norvégienne de 32 ans, sur l'île d'Utøya, et l'a accusé de 2 attaques. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui. Au revoir.
Thank you.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, voici la rubrique de mon Indonésie. Le titre de cette édition est « La torche de feu des Jeux asiatiques 2018 ». Il y a une histoire derrière l'élection du feu éternel de Merapen à Grobogan, à Java Central, comme un endroit pour prendre la torche de feu des Jeux asiatiques de 2018. Cette histoire a été exprimée par la ministre coordinatrice pour le développement humain et la culture de la République d'Indonésie, Madame Puan Maharani. Selon elle, bien qu'il existe une source de feu éternel dans d'autres régions, l'attraction du feu éternel de Merapen est spéciale en raison de son haute valeur historique. Le feu éternel de Merapen a été une source de la torche de feu pour plusieurs ordres du jour nationaux et internationaux depuis l'époque du président Sukarno jusqu'à maintenant. Le feu éternel de Merapen a été pris pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des Nouvelles Forces Émergentes le 1er novembre 1963. En outre, la Semaine Nationale du Sport, ou PON, a également pris le feu éternel de Merapen, commencé à PON 16 le 23 août 1996. Pour les occasions religieuses, le feu éternel de Merapen est également utilisé pour allumer une torche de cérémonie du jour Vesak pour les bouddhistes. Il a été dit par Madame Puan Maharani lors d'un discours lors de l'événement d'allumage de la torche des Jeux asiatiques 2018 à l'attraction du feu éternel de Merapen, Grobogan, mercredi le 18 juillet 2018. Madame Puan espère que la torche de feu des Jeux asiatiques de 2018 tirée de la source de feu éternel de Merapen de Grobogan deviendra l'esprit brûlant de tous les athlètes nationaux qui concourront à Jakarta et à Palembang. De Merapen, la torche de feu des Jeux asiatiques de 2018 a été défilée à Semarang. La régente de Grobogan, Sri Sumarni, a admis qu'elle était fière de l'élection du feu éternel de Merapen comme lieu d'allumage de la torche des Jeux asiatiques 2018. Au moins, par ce moment, le district de Grobogan sera connu aux yeux du monde. De plus, Arya Susanti Rahayu est une fille du village de Taruman, sous-district de Klambu, district de Grobogan, qui a marqué le nom de l'Indonésie après avoir été la participante la plus rapide au championnat du monde d'escalade de la Coupe du monde de 2018 à Chongqing en Chine. C'est un moment de fierté et d'histoire pour la société de Grobogan. Pendant ce temps, le relais de la torche a commencé avec la prise du feu éternel en Inde dimanche le 15 juillet 2018 est ensuite envoyé en Indonésie. La prise de feu en Inde en raison du statut du pays qui est à l'origine des Jeux asiatiques. Mercredi, le 18 juillet 2018, la torche de feu est arrivée à Yogyakarta. Ce feu a été combiné avec le feu éternel de Merapen, Java Central à Prambanan. Ce mélange a une raison. Jusqu'à présent, le feu éternel de Merapen brûle tout le temps. L'existence de ce feu éternel peut s'expliquer scientifiquement. L'apparition du feu à la suite de fractures dans le sol a été causée par les phénomènes géologiques du gaz naturel. Le gaz naturel sort de l'interstice du sol et allume le feu, de sorte que le feu allume tant que le gaz naturel pulvérise. Malgré l'eau, le feu ne s'éteindra jamais. La torche de feu des Jeux asiatiques de 2018 traversera 50 villes dans 18 provinces avant d'arriver au stade Gelora Bung Karno de Jakarta pour la 18e cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques le samedi 18 août.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Show the world.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine Cultura. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voyinus.id. Aujourd'hui, je vais présenter la plage de Bulbul. Donc, restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. La région de Toba Samosir, Sumatra du Nord, sera l'une des 51 villes d'Indonésie où le relais de la flamme des Jeux asiatiques 2018 s'arrêteront, qui aura lieu à la plage de Lumban, Bulbul. La réplique du flambeau des Jeux asiatiques viendra de la province d'Aceh. Ensuite, le flambeau sera installé à la maison de transition de Bung Karno à Parapat, la région de Simalungun. L'élection de la plage de Bulbul comme le centre de l'événement du relais de la flamme à Sumatra du Nord a été une décision de l'INASGO, le comité d'organisation des Jeux asiatiques de 2018. Cette plage a été choisie parce qu'elle est située dans les eaux du lac Toba, qui est la plus grande icône touristique de Sumatra du Nord. La plage de Lumban Bulbul, ou également connue comme la plage de Bulbul, est située à environ 2 km de Baligé, une petite ville près du lac Toba, précisément située au village de Bulbul Lumban. Cette plage est devenue une icône de plage au milieu de la beauté du lac Toba, qui est riche en paysages de collines et d'arbres. Pour y aller, c'est très facile. De l'aéroport de Silangit, on a seulement besoin d'environ 30 minutes pour y arriver en transport terrestre. Pour entrer dans la plage de Bulbul, vous n'avez pas à payer de frais d'entrée. Vous payez seulement le stationnement de véhicules de 5000 rupies à 10000 rupies par véhicule et le chalet de 20000 rupies à 25000 rupies. Là, vous verrez une plage qui est propre et en pente. Alors, n'ayez pas peur de vous noyer si vous nagez là. Sur cette plage, il y a des escaliers pour sauter et un pont au milieu de l'eau qui peut être utilisé comme un spot de prendre de photos. À l'après-midi, ne manquez pas la beauté du coucher de soleil sur la plage de Bulbul. La plage de Bulbul offre une variété d'installations de jeux amusantes qui sont appréciées par beaucoup de gens, surtout les enfants et les adolescents. Comme Banana Boat, les bateaux ou Solu Solu, et les bateaux qui peuvent être loués pour contourner le lac de Toba. Non seulement cela, cette plage a également des installations de jeux pour les enfants tels que des balançoires, des trampolines, etc. Il y a aussi des maisons des habitants qui servent de logement pour ceux d'entre vous qui veulent rester. Merci d'écouter le magazine culturel d'aujourd'hui. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur. Présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se rencontre encore dans la rubrique de l'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. Cette édition va parler des étudiants développent outils pour réduire la teneur en métal du poisson. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie à 900-200 kHz ou www.voinews.id. L'impact de la pollution par les métaux lourds dans les eaux a attiré l'attention des chercheurs du monde entier, y compris en Indonésie. Cette pollution a un impact négatif pour les écosystèmes marins, y compris le poisson que les gens consomment. Les métaux lourds qui contaminent souvent l'eau sont le mercure et le plomb. Les poissons consommant du mercure et du plomb sont incapables de le déchiffrer, de sorte que lorsqu'il est consommé par les humains, le poisson sera nocif car il contient encore du mercure et du plomb. Cela encourage les étudiants de la Faculté de Technologie Agricole de l'Université Brawijaya Malang, Java de l'Est, à innover. Ils sont Tri Wahyu Perdana, Anissa Aurora Kartika et Muhammad Alwi et leur professeur Joko Prasetyo. Cette équipe a développé un outil innovant pour réduire la teneur en métaux lourds du poisson qu'ils ont nommé FIMEC, Fish Metal Reducer System, ou le système de réducteur de métaux du poisson. Les auditeurs, selon Wahyu, jusqu'à présent, le processus de traitement du poisson contenant des métaux lourds juste en trempant la solution acide. Mais ce processus a encore de nombreuses faiblesses. Les inconvénients communs sont les changements de texture, de couleur et de goût du poisson traité. De plus, parfois, on a souvent jeté des poissons contenant du métal à cause des fonds limités pour les traitements. En fait, le poisson a un contenu très important pour l'homme comme une source de protéines et d'acides gras essentiels. Selon Wahyu, ce contenu est indispensable pour la formation des cellules cérébrales pour augmenter le niveau d'intelligence humaine. En outre, le poisson est également une source économique pour la communauté. Il a dit que l'innovation de l'outil de traitement post-récolte sur le poisson a été créé comme un effort pour réaliser la sécurité des résultats maritimes de l'Indonésie. Chers auditeurs, selon Wahyu, FIMEC est un outil très pratique et peu coûteux car il utilise des aquades et des méthodes d'électrocoagulation. Les aquades sont de l'eau pure ou H2O, des distillats ou de l'eau distillée, ne contenant presque pas minéraux. Basé sur la recherche, le trempage avec des aquades peut réduire la teneur en métal ou cadmium atteint 80% et le plomb métal atteint 74,4%. On peut également minimiser les changements physiques du poisson, de sorte que le poisson a l'air frais et délicieux à manger. Avec FIMEC, on s'attend à ce que les cas causés par la contamination par des métaux lourds en Indonésie puissent être réduits. Cela peut donc contribuer à améliorer la sécurité alimentaire de l'Indonésie. Les auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se retrouvera avec l'autre sujet intéressant. À demain!
quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie. On se retrouve encore dans la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Dans cette édition, on va saluer nos auditeurs et aussi présenter les chansons d'un groupe s'appelle Écouter. Chers auditeurs, écoutons une chanson intitulée Simpan Saja ou en français Sauvegarde-le, chantée par Écouter. Restez avec nous à www.voinews.id.
Kau dapat membuatku maafkan salahmu, dan kini kau ulangi salahmu ya, itu saja kecewaku dibuatmu terluka karena sifatmu. Kini ku tak mampu bertahan lagi. Ku akui dirimu pernah berarti, dan memang hidupku hampa tanpamu, namun lebih baik ku sendiri. Simpan saja rasa di hatimu, sudah lupakan hasratku, tak
Merci à toutes et à tous qui ont envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Maintenant, je voudrais saluer les auditeurs Jean-Marie Montplot de 409 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry, France, et pour Leila à Tours plus précisément. Merci beaucoup pour quelques suggestions. Et Vincent de 14 rue Camille Saint-Saëns, 92400 Courbevoie, France. Jean-Michel Aubier, de 3 route de Brest, 18340 Alsace, la France. Et José Socorro Soeiro Maranao, à Avenida Alcide Roca, 469 Molino, Ceará, le Brésil. Site de 550000, merci pour l'email le 9 mars 2017 et le rapport d'écoute. Et Nahmou Chinoari, BP, en 54 bisetif, 19 000 Algérie. Bon, chers auditeurs, je vous présente la deuxième chanson d'écouter, dont le titre est Perchayala, ou en français, Croyez-moi. Bonne écoute!
Aku melukiskan isi hatiku untukmu. Seandainya kau pun harus tahu lelah hatiku bila kau jauh. Namun ku pendam rasa. Memiliki walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu. Seutuhnya, namun ku pendam rasa.
Voilà la chanson d'écouter s'intitule Percayalah ou en français Croyez-moi. Écouter est un groupe de musique indonésien formé en 2005. Ses membres sont composés de 5 personnes, Delia comme chanteuse, Jai comme batteur, Ayi comme guitariste, Leo comme bassiste et Iyas comme claviériste. Après avoir formé officiellement le 15 juin 2006, Écoutez a sorti son premier album intitulé Écoutez. Écoutez est le nom de leur groupe qui vient de la langue française. Bon, chers auditeurs, merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Les meilleures salutations à Maurice Mercier, 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche, La France, et Idriss Boudina et son épouse Lubna de 1130 Springdale Drive, Pittsburgh, PA 15236 USA, et Abdelkader Khalil de BP 669 Ouargla, Algérie, et Omar Lassas de Algérie Mascara de BP 530 Bureau de Poste Emir AEK 29008 Mascara Algérie. Comment ça va mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé et restez toujours en contact avec nous. Merci d'écouter toujours nos programmes. Avant de terminer notre édition, je vous donne 2 chansons par écouter, intitulées Tunjuk Satu Bintang, en français Point une étoile, et Biar ku simpan cintaku. En français, laisse-moi garder mon amour. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie et à la prochaine.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, Voice-of-Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.